Docteur Milhaud, bonjour.
Oui, bonjour.
La question, est-ce qu'on peut le faire? On constatera que oui au cours de cette discussion. Mais avant, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a envie de le faire? Les personnes qui vivent avec des problèmes de toxicomanie, ce sont des personnes qui vivent encore beaucoup de préjugés, qui sont stigmatisées. On oublie peut-être souvent qu'ils sont aussi vulnérables. Je pense que vous avez envie de nous parler de ça en premier lieu.
Oui, absolument. En fait, souvent d'entrée de jeu, quand que je parle de la dépendance avec les gens, j'aime bien faire une comparaison. Je leur dis, si vous aviez une personne devant vous qui souffre d'hypertension, est-ce que vous accepteriez que tous les services auxquels elle a droit sont très loin de chez elle? Est-ce que vous accepteriez que cette personne-là soit stigmatisée, même quand elle va à l'urgence, qu'elle voit du personnel infirmier, médical, etc.? Est-ce que vous accepteriez qu'il n'y ait pas de traitement qui lui soit offert? Souvent, la réponse est non. Puis après ça, je leur dis, mais si on vous disait que la dépendance, c'était la maladie plutôt que de l'hypertension. Puis souvent, les gens, c'est là qu'on fait un peu un déclic, comme quoi chacun d'entre nous, souvent, on va avoir même des préjugés par rapport à cette problématique-là.
Mm-hmm.
Donc, en effet, les usagers de drogue par injection, d'autant plus, c'est une population qui est très vulnérable, très marginalisée. En plus d'être stigmatisés, qui présentent une espèce de concentration de risques, que ce soit des risques à la santé. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de VIH, on sait qu'il y a beaucoup d'hépatite C. Et comme vous parliez précédemment aussi, on sait qu'il y a plusieurs surdoses.
Oui, il y a des décès, là.
Exactement.
Oui, et ça, ça passe... J'avais envie de le dire d'entrée de jeu parce que je trouve que ça passe un petit peu sous silence. Et l'exemple de nommer une autre maladie, ben, je pense que c'est intéressant parce que si l'on disait, ben, il y a 25 personnes qui décèdent par année de telle maladie dont on n'entend jamais parler, on se dirait, ah, OK, attention, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, ben, ça passe un petit peu sous silence. Et je pense que l'on peut répondre à la question en disant, oui, c'est possible de faire des choses pour ces gens-là parce qu'il y a des études qui démontrent que la confiance va souvent vers des organismes communautaires plus que vers les hôpitaux, donc des centres d'injection supervisés, ce serait peut-être une option. C'est des personnes qui vivent avec des problèmes de toxicomanie seraient peut-être plus portées à aller vers ces centres de services-là.
Absolument. En fait, il y a plusieurs interventions qui existent. Entre autres, on a vu qu'il y avait des programmes d'échange de seringues qui sont très, très, très efficaces, qui sont quand même bien implantés au Québec et ailleurs dans le monde, où on va donner des seringues qui sont stériles aux personnes qui vont s'injecter pour justement prévenir le taux de VIH, l'hépatite C, etc. Mais en 2003, l'Organisation mondiale de la santé a dit que c'était pas assez, qu'il fallait passer à une autre étape. Aller au-delà de ça, puis bon, il y a plusieurs services, il y a une gamme de services qui s'offrent, mais en effet, les services d'injection supervisée ont déjà fait leurs preuves. C'est quand même nouveau dans le discours de monsieur, madame, tout le monde au Québec,
oui.
Mais ça fait près d'une trentaine d'années que ça existe, en fait. C'est en 86 que le premier a ouvert en Suisse.
Mm-hmm. Mais il n'y en a pas en Amérique du Nord.
En fait, il y en a deux en Amérique
du
Nord.
Oui, c'est ça, à Vancouver. Oui.
Exactement, à Vancouver, oui. C'est les deux seuls qui existent jusqu'à maintenant. Il y en a un qui s'appelle INSIGHT, qui était un projet d'étude à prime abord qui a ouvert en 2003, sous le gouvernement Harper à ce moment-là, et qui était un projet d'étude sur 5 ans. Puis après 5 ans, le gouvernement a voulu fermer cette intervention-là, ce centre-là. Mais il y a eu tellement d'études qui ont démontré des avantages, que ce soit au niveau de la diminution de la transmission du VIH, de l'hépatite C, mais aussi, ce qui est très intéressant avec les services d'injection supervisée, c'est que ça l'aide à aller chercher les gens pour les ramener dans nos ressources, les ramener dans le système, parce que c'est des gens qui se tiennent en marge du système beaucoup. Et en fait, bon, c'est ça, il y a une grande bataille juridique, puis la Cour suprême en 2011 a noté qu'à l'unanimité, les services d'injection supervisée devaient continuer parce que ça montrait des bénéfices pour la population usagère de drogue par injection.
Il n'y a pas aussi une façon d'éviter les surdoses parce qu'on, bon, il y a un personnel médical sur place qui peut reconnaître certains signaux?
Oui, exactement. En fait, concrètement, comment ça fonctionne un service d'injection supervisée? On pourrait le diviser en 3 parties. En première partie, la personne arrive avec ses drogues. Au centre, puis on lui donne le matériel stérile d'injection. Donc, cette partie-là existe déjà, en plus, si on fait dans le système. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment le centre d'injection, le cœur du centre d'injection, où les personnes vont s'injecter devant un miroir de manière individuelle, devant un personnel infirmier ou un autre intervenant qui est formé pour ça. Puis c'est là que vraiment on forme la personne pour s'assurer qu'elle puisse elle-même s'occuper d'une personne qui a une surdose. Donc, en plus de, d'aider la personne sur le moment, mais ça fait qu'il y a beaucoup moins de personnes qui finissent à l'urgence, justement dans un état avancé de dépression respiratoire, par exemple. Mm-hmm. Donc, la personne, souvent, va être habilitée à pouvoir donner le bon traitement au bon moment, puis même juger si la personne doit, oui ou non, aller à l'hôpital. Et finalement, une troisième salle où que, c'est très, très, très intéressant parce qu'on peut avoir plusieurs ressources, que ce soit en logement, par exemple, que ce soit pour dans le fond, donner de la nourriture à la personne, des douches, peu importe. Même des fois, il y a des vétérinaires qui vont être là pour prendre soin des chiens, des personnes, parce qu'il y a beaucoup d'itinérants chez les usagers de drogue par injection. Donc, on veut vraiment avoir cette troisième salle-là qui est beaucoup à l'image de la population des usagers de drogue par injection. On veut que ce soit eux qui décident un peu comment on va mettre les meubles ou qu'est-ce qu'ils veulent avoir là pour que ce soit vraiment un milieu de vie pour eux puis pour qu'il y ait le goût de venir dans le service d'injection supervisée qui est pour eux.
Est-ce que l'on sait, David, pourquoi il y en a si peu encore au Canada?
Oui, en fait, on voit historiquement que en Europe, on parle beaucoup plus de réduction des méfaits. Donc, par rapport à la toxicomanie, on dirait que les objectifs ne sont pas nécessairement de cesser la consommation dans un futur immédiat ou un futur très proche. C'est certain, on va voir ça un jour, mais vraiment, on met l'accent sur toutes les autres problématiques que peut avoir une personne qui s'injecte des drogues. Que ce soit les besoins de base, les besoins primaires. Mais en Amérique, ce qu'on a observé, c'était vraiment une approche plus prohibitionniste. On a entendu parler du Prohibition Party dans le temps aux États-Unis, mais le Canada aussi avait une vision un peu plus prohibitionniste où qu'on se disait, du jour au lendemain, une personne, on leur enlève tout accès aux drogues, ils vont arrêter sans qu'il y ait aucun problème, ce qui est quand même assez utopique. Une société sans drogue, du jour au lendemain, il y a des personnes qui font des sévrages, même physiquement, il y a des personnes qui font des sévrages. Mais au niveau de la disponibilité des drogues, c'est difficile aussi de couper tout accès à tout revendeur ou de contrôler ça. Donc, souvent, on dit que l'approche de réduction des méfaits qui est mise de l'avant en Europe est plus réaliste, mais aussi qu'elle est plus pragmatique puis qu'elle fait appel davantage à des valeurs humanistes, qu'on reconnaît l'usager de drogue par injection comme étant une personne qui a des problèmes de santé, qui a des besoins, mais qui a aussi une dignité.
Est-ce que les études nous disent qu'une personne qui fréquente un site d'injection supervisée va être amenée à diminuer sa consommation ou même à la cesser?
Oui, mais en fait, il y a plusieurs ressources qui existent déjà pour ça. Donc, de les mettre en contact avec ces ressources-là d'emblée, on peut observer qu'il y a une diminution de la consommation qui peut aller jusqu'à la cessation. D'ailleurs, il y a eu plusieurs critiques des services d'injection supervisée. Les gens, ça fait quand même peur quand on y pense, de dire qu'on pourrait avoir ça dans notre cours. Mais une des peurs, justement, c'était que les gens s'initient davantage aux drogues injectées ou qui vont avoir des rechutes davantage. Puis, avec Insight, le site dont je vous parlais à Vancouver, vu que c'était un projet d'étude, on a pu faire les comparaisons, voir avant et après, est-ce qu'il y a eu un changement. Puis ça a démontré que, justement, les gens, non seulement étaient référés davantage à la désintoxication ou à d'autres ressources du genre, mais aussi initiaient le traitement davantage. Mm-hmm. Donc, probablement qu'il y avait une diminution de la consommation par la suite.
Et vous avez bien nommé, David, cet obstacle, c'est-à-dire celui qui pourrait venir de la population, à savoir, je ne veux pas ça dans mon quartier, je ne veux pas que mes enfants soient en contact avec cette clientèle-là. Qu'est-ce que l'on peut dire à des résidents, des citoyens, pour les rassurer?
En effet, on appelle cette réaction-là l'effet « pas dans ma cour ». Donc, souvent, on observe que dans les populations, en général, ils sont d'accord avec une intervention comme celle des services d'injection supervisée. Mais une fois qu'on dit « ça va être où? », on se retient, puis même il y a des positions qui sont quand même assez fortes souvent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Tout d'abord, on observe que les usagers de drogue par injection ne vont pas nécessairement bouger pour aller à un service d'injection supervisée. C'est pour ça qu'il faut amener le service d'injection supervisée à eux.
Ah oui.
Donc, souvent, ça a des personnes qui, même sans le savoir, ils vont avoir des usagers de drogue par injection dans leur quartier. Donc, de prendre compte de ça, de se rendre compte de ça, c'est déjà une première étape. Mais je crois aussi que... pourquoi, par exemple, on a vu dans les médias il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu un centre de désintoxication qui a dû fermer. Ça a réagi beaucoup dans les médias et paf, le gouvernement a offert une subvention. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ces personnes-là? Bien, tout d'un coup, c'est comme si on les voyait davantage comme des humains. Ça devenait des victimes qui ont une vie, qui ont une histoire, etc. Puis je pense que ça s'applique à la toxicomanie en général. Le fait de dire que la toxicomanie peut toucher un peu n'importe qui, dans n'importe quel milieu, c'est pas nécessairement les personnes qui sont dans la rue. Ça peut être votre cousin, ça peut être votre oncle, la personne avec qui vous travaillez, etc. Donc, le fait de rendre ces personnes-là humaines aux yeux de la population, mais aussi de faire comme on fait aujourd'hui, d'en parler, je pense que c'est une première étape qui est très importante. Et l'acceptabilité sociale, c'est certain qu'il faut en tenir compte quand on va faire une étude de pertinence pour voir si on peut vraiment implanter un service d'intervention supervisée dans un endroit.
Mais souvent, l'acceptation vient de la connaissance. Donc, de véhiculer cette information-là, si évidemment il y a un site d'injection supervisé qui arrive dans votre quartier, bien déjà, de pouvoir donner accès à cette information-là, ça peut rassurer. J'ai envie de revenir sur les services qui sont déjà en place pour des personnes toxicomanes. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Ils ont accès à quel type de services?
Oui, en fait, comme je vous parlais tantôt, il y a les programmes d'échange de seringues. Avec plusieurs centres, que ce soit dans les pharmacies, dans les centres de santé, mais souvent, ça va être des organismes communautaires qui vont avoir le plus d'achalandage, si on veut, par rapport à ce service-là. Et bon, comme je viens de le dire, il y a des organismes communautaires qui sont dédiés à la toxicomanie, qui font un travail incroyable avec des travailleurs de rue, qui vont bien connaître la population, savoir où aller, et même savoir les signaux de, bon, quand est-ce que je dois me retirer de tel endroit parce que c'est dans un endroit dangereux, un crack house, ou des endroits comme ça. Il y a aussi, bon, toutes les ressources de désintoxication, quand une personne veut cesser sa consommation, mais il y a aussi des traitements pour certaines dépendances spécifiques, comme les dépendances aux opiacés, par exemple, tout ce qui est morphine, tout ce qui est dérivé morphinique, comme l'hydromorphone, l'oxycodone, etc., le fentanyl qu'on entend parfois.
Oui.
Donc ça, pour ça, on a des traitements spécifiques qui, en fait, on leur prescrit quelque chose qui ressemble à un opiacé, puis ça nous permet de diminuer la concentration qu'on leur prescrit jusqu'à temps que la personne soit confortable et peut-être même aller jusqu'à la cessation éventuellement. Pour tout ce qui est cocaïne, c'est beaucoup plus difficile de traiter une dépendance parce qu'on n'a pas ce genre de traitement-là. Et malgré tout ça, quand on observe les usagers de drogue par injection au Québec, c'est surtout de la cocaïne qu'on consomme. C'est environ, dans les dernières études, on voyait qu'à peu près 80 % des usagers de drogue par injection s'étaient injectés de la cocaïne récemment, versus environ 50 % pour les opiacés.
Ce sont des utilisateurs qui ont, parce que je vous relance sur les utilisateurs de cocaïne, à s'injecter peut-être 15, 20 fois par jour.
Oui.
Est-ce que ça signifie un passage 15, 20 fois par jour au site d'injection supervisée?
En fait, ça se pourrait, en fait. Mais l'idée derrière la chose, au-delà de superviser, c'est pas nécessairement de superviser chaque injection, c'est vraiment de s'assurer que la personne sait comment s'injecter de manière la plus sécuritaire possible. Donc, on est carrément dans la réduction de méfaits, comme je parlais. Et donc, si la personne va consulter seulement une fois le service d'injection supervisée, déjà, ça va être une petite victoire pour nous.
Donc, ne serait-ce qu'aussi les doses, à savoir telle dose ne me nuit pas, mais à partir de telle dose, j'ai des risques là, de vivre une surdose.
Absolument. Puis quoi faire si jamais on voit quelqu'un qui fait une surdose, par exemple, ou s'injecter sur notre corps pour pas qu'il y ait des risques d'abcès, pour pas qu'il y ait des risques... De complications, d'infections, d'endocardite, par exemple, etc.
Ce que j'entends, Dr Milo, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à ce type de centre, ne serait-ce que de prévenir certains coûts aussi liés à la santé. Il y a beaucoup d'avantages.
Absolument. Bien, il y a tous les avantages qu'on observe vraiment pour les usagers de drogue par injection, avec toutes les études qu'il y a eu, avec plusieurs centres. Il y en a en Australie aussi qui a fait beaucoup, beaucoup de littérature, qui a donné lieu à beaucoup de littérature. On observe qu'il y a une diminution du partage du matériel d'injection, qu'il y a des meilleures pratiques d'injection plus sécuritaires, diminution du VIH, d'autres infections, une diminution aussi de la mortalité, de la sévérité des surdoses, comme on parlait. Mais aussi, vraiment, à l'extérieur des services d'injection supervisée, on observe, par exemple, qu'il y a une meilleure collaboration des policiers. Parce que les policiers savent où référer une personne qui se retrouve avec un problème de dépendance versus maintenant qu'on navigue un peu aveuglément dans les ressources. Donc, oui, il y a plusieurs avantages, autant pour les usagers de drogue par injection que pour la communauté en général, parce qu'on a pu voir qu'il y avait de la rentabilité, un coût efficacité très intéressant pour les villes qui ont pu implanter ça, mais aussi qu'il y avait une diminution de la perception de criminalité, de dangerosité de la population avec le temps. Et bon, c'est certain aussi, il y a moins, dans
les
certains
endroits.
Les urgences
aussi, moins surchargées.
Oui, certainement, au niveau de l'utilisation des ressources, c'est très intéressant d'un point de vue purement économique aussi.
Oui.
Parce que, aussi, on parlait d'hépatite C, par exemple, un traitement, ça coûte incroyablement cher. Une personne qui a le VIH aussi, on parle de centaines de mille pour ces traitements qui vont devoir durer toute sa vie.
Oui. Donc, à quand un centre d'injection supervisé à Montréal?
On l'espère le plus bientôt possible. En fait, je peux pas vous parler du contexte actuel. On est en attente d'une décision du fédéral. Puis après, on se demande un peu pourquoi le fédéral, quand on parle de santé, c'est de juridiction provinciale normalement. En fait, c'est que pour pouvoir ouvrir un service d'injection supervisé, il faut avoir une exception, une exemption à la loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui fait qu'on peut se présenter dans un service d'injection supervisée avec de la drogue sur soi. Sinon, c'est une pratique illégale, donc c'est impossible d'avoir un service d'injection supervisé. Et tout le dossier a été envoyé au fédéral. Ça fait longtemps qu'à Montréal, on y travaille et on est en attente, en fait, de l'acceptation du fédéral parce que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a déjà donné son approbation.
Oui.
L'Institut national de santé publique aussi s'est prononcé favorablement là-dessus. On entend le maire Coderre aussi qui était très, très vigoureux dans sa manière de dire d'accepter le projet, de vouloir en avoir un à Montréal. Il y a des choses qui se font à Québec aussi. On a parlé, on a fait une présentation la semaine passée où on voyait qu'il y avait déjà une évaluation de la pertinence qui avait été faite. Donc, la pertinence a déjà été démontrée. Maintenant, il faut faire une prochaine étape pour voir s'il y a une bonne acceptabilité sociale. Les balises, il y a des balises qui existent, en fait, qui ont été mises de l'avant par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2013, qui c'est comme un guide, en fait, de qu'est-ce qu'il faut faire avant de pouvoir envoyer notre dossier au fédéral. Puis, en fait, à Québec, ils sont en train de faire les étapes pour se rendre jusque-là également.
Mais à Montréal, si j'ai bien compris, tout est prêt. On attend que la confirmation du fédéral là, pour lancer le projet.
Oui, en fait, on sait déjà un peu où ça devrait être. On connaît un peu les modalités. On a l'approbation de pas mal tout le monde, donc on attend des nouvelles du fédéral. On espère que ça va bouger.
On suivra bien ça de près, évidemment, et je suis certaine là, que vous serez dans l'équipe de gens qui regarderont ça également de près pour l'implantation de ces centres-là. En terminant, course Scotia du côté de jeunes médecins du monde. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire là-dessus?
Oui, en fait, c'est avec Médecins du Monde Canada.
Du monde. Oui, voilà.
Exactement. En fait, je mets mon autre chapeau en ce moment. Je suis aussi administrateur. Je suis impliqué auprès de l'organisme Médecins du Monde, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes marginalisées, aux personnes vulnérables. Par exemple, on peut parler des autochtones en milieu urbain à Montréal. On peut parler des travailleurs travailleuses du sexe, des migrants en statut précaire, etc. Donc, autant ici au Québec qu'à l'étranger. Ils sont en Haïti depuis longtemps, puis bon, c'est un réseau très, très grand avec plusieurs délégations partout dans le monde. Et nous autres, on fait une course, en fait, pour ramasser des fonds. On a un objectif, c'est la première fois qu'on le fait cette année, donc on a un objectif un peu plus conservateur de 5 000 $. Et les gens, en fait, ils peuvent se rendre sur la page Facebook de Médecins du Monde Canada si sont intéressés soit à faire un don ou même à courir avec nous. On accueille tout le monde. Les procédures sont là. Puis la course a lieu le 24 avril prochain,
voilà,
en matinée. Donc, tout le monde est bienvenu.
C'est assez accessible, là. Ça peut être 5 km, ça peut être 10 km, je crois.
En fait, il y a 5 km en solo avec poussette pour les mamans et les papas de ce monde, mais il y a aussi un 21 km pour ceux qui ont déjà de l'expérience.
Voilà. Donc, ça pour Médecins du Monde, et je mélangeais tout à l'heure avec Jeunes médecins pour la santé publique parce que vous en êtes président, Dr. David Martin-Milo, résident santé publique et en médecine préventive. Merci beaucoup, ça a été très éclairant.
C'est un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.